nuageux des Ardennes à la région parisienne jusque sur la Vendée. Et puis ces nuages, ils vont aussi gagner une bonne partie de la région sud et le Languedoc dans l'après-midi. Au lever du jour, les températures, donc là, bientôt 8 à 14 degrés. En général, il va faire doux aujourd'hui. Nous sommes donc le lundi 21 octobre 2024. Il est 7h, vous écoutez France Musique. Et les premières informations avec le retour de Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Doliprane sous pavillon américain. Conseil d'administration s'est tenu hier soir chez Sanofi pour entériner son entrée en négociation exclusive avec le fonds d'investissement américain CDNR. La polémique ou la pression du gouvernement dans un contexte de pénurie récurrente de certains médicaments n'auront pas conduit Sanofi à changer d'avis. Un accord tripartite a toutefois été trouvé entre l'État Sanofi et le fonds d'investissement américain et l'État assure avoir obtenu des garanties, notamment sur l'emploi. Le gouvernement précise par ailleurs que l'État, via BPI France, sera actionnaire de la société pour y veiller. Rejeté samedi en commission des finances, le projet de budget 2025 arrive à l'Assemblée. Les députés commenceront ce soir l'examen du projet de loi de finances en repartant du texte initial, la copie du gouvernement qui prévoit des économies drastiques, suppression de postes de fonctionnaires, hausse des impôts pour les plus aisés et les grandes entreprises, hausse de la taxe sur l'électricité. L'exécutif compte trouver 60 milliards d'euros pour ramener le déficit à 5% du PIB l'an prochain. Les débats promettent d'être houleux dans un hémicycle divisé et sans majorité. L'option d'un 49-3 déclenchée par le gouvernement plane donc au-dessus de la tête des députés. L'armée israélienne cible désormais les intérêts économiques du Hezbollah au Liban. Elle a bombardé hier soir dans la banlieue sud de Beyrouth une entreprise qu'elle accuse de financer le mouvement pro-iranien. Et ce, après avoir pilonné à travers le pays des positions du Hezbollah. La force de paix de l'ONU au Liban a pour sa part accusé l'armée israélienne d'avoir délibérément détruit une tour d'observation des casques bleus dans le sud du Liban, dernier d'une série d'incidents contre ces positions qui ont valu à Israël une volée de critiques internationales. Deuxième nuit consécutive d'attaques de drones russes sur Kiev, un civil a été tué et des immeubles résidentiels endommagés. Des frappes russes également hier soir sur Kharkiv. Elles ont provoqué des coupures d'électricité dans cette grande ville du nord-est de l'Ukraine. Ces bombardements interviennent alors que les autorités ukrainiennes redoutent le début d'une nouvelle campagne russe d'attaque contre les infrastructures énergétiques civiles du pays, comme pendant les hivers 2022 et 2023, un moyen utilisé par Moscou pour plonger des millions d'Ukrainiens dans le froid et le noir et ainsi faire pression sur Kiev. Les Moldaves semblent dire non à l'adhésion à l'Union européenne lors d'un référendum hier et selon des résultats partiels qui pourraient être modifiés par le vote pas encore comptabilisé des expatriés, les électeurs se sont dit à 52% opposé à l'inscription de la constitution de l'objectif européen. Ce serait une surprise si ces résultats se confirmaient et un revers pour la chef d'État sortante Maya Sandu, parallèlement arrivée en tête du premier tour de la présidentielle avec 38% des voix. Et enfin, les débats de la 16e COP biodiversité s'ouvrent aujourd'hui à Cali, en Colombie. Hier, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a pressé la communauté internationale de passer de la parole aux actes. Voilà pour l'info. Ce matin à 8h30, c'est la chorégraphe Blanc Ali qui sera votre invité, Jean-Baptiste.
Et vous revenez dans la danse à 7h30, Marie-Hélène, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Connaissait chorégraphe, danseuse, elle a travaillé aussi bien pour Almodovar que Daft Punk, Jean-Paul Gaultier tout autant que Beyoncé. Depuis plus de 4 mois, Blanc Ali est aussi présidente de la Grande Halle de la Villette. C'est là qu'elle présente jusqu'au 31 octobre son nouveau spectacle Didon est né, version chorégraphiée de l'opéra de Purcell sur un enregistrement des Arts Florissants de William Christie. Alors quels sont les liens de la chorégraphe andalouse avec le monde lyrique et puis quelles sont ses ambitions pour la Villette? Blanc Ali sera notre invitée à 8h30. Au sommaire également de ces 2 heures, comment la garde républicaine est devenue branchée? C'est l'enquête ce matin du Figaro. 2 mois après avoir participé à la cérémonie d'ouverture des JO aux côtés d'Aya Nakamura, on s'arrache ses musiciens et ses chanteurs. Rendez-vous dans la revue de presse à 8h10. Et puis pourquoi le monde antique grec a-t-il autant inspiré les compositeurs? Quelles esthétiques ont-ils choisi? Et d'ailleurs, sait-on comment la musique sonnait dans la Grèce antique? La journaliste et musicologue Hélène Piraco signe un ouvrage sur la question. Elle sera avec nous à 7h40.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique. Et pour commencer ce lundi matin, voici une musique de Jean Constantin. La musique de Jean Constantin pour ouvrir ce 7-9 sur France Musique, le compositeur de chansons comme Mon manège à moi pour Piaf ou Mon truc en plume pour Zizi Jeanmaire, repris l'été dernier à la cérémonie d'ouverture des JO par Lady Gaga. Jean Constantin, donc, qui en 1959 signe cette musique pour le premier long métrage d'un jeune cinéaste qui a 27 ans, qui s'appelle François Truffaut. Le film, lui, s'intitule Les 400 coups avec un gamin de 14 ans qui crève l'écran. Ce gamin, c'est Jean-Pierre Léo. En ce 21 octobre qui marque les 40 ans de la disparition de François Truffaut, il est à l'honneur ce soir à la télévision sur Arte avec à 20h55 Baiser volé, où Jean-Pierre Léo, Antoine Douanel, devenu un jeune homme romantique et maladroit quelques années après les 400 coups. Arte qui propose d'ailleurs aussi à 22h55 un documentaire consacré à Jean-Pierre Léo. Et puis pour revenir aux 400 coups, ils seront diffusés sur France 5 cette fois vendredi prochain à 22h45, précédé d'un documentaire signé David Teboul et Serge Toubiada Voilà, et puis Truffaut, on y revient à 8h20. Dans Maxi Classique, Max Ozone nous racontera, lui, la collaboration entre le réalisateur et le compositeur Georges Delerue. Vous écoutez France Musique, il est 7h09.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Et notre nouveauté aujourd'hui vient de paraître chez Harmonia Mundi, nouvel enregistrement de l'Académie für Alte Musik de Berlin et du Rias Kammerchor de Berlin, tous dirigés par Justin Doyle, avec au programme, pour commencer, ceci. Jean-Sébastien Bach, le début de son célèbre Magnificat. Oui, mais, pas tout à fait le même. D'ailleurs, si vous êtes familier de l'œuvre, vous vous êtes peut-être dit, tiens, il y a quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Eh bien oui, car c'est ici la première version de ce Magnificat que le Rias Kammerchor et l'Académie für Alte Musik de Berlin, tous dirigés par Justin Doyle, première version donc qu'ils ont choisi d'enregistrer. Alors, les différences, c'est qu'elle est en mi bémol majeur, ce qui donne un peu moins d'éclat que la version postérieure dans la tonalité solaire de ré majeur, et puis il y a aussi quelques différences de détails, mais l'essentiel est là. En 1723, Bach prend ses fonctions de cantor à Saint-Thomas de Leipzig, et pour que toute la musique d'église qu'il va diriger soit écrite de sa main, il va composer un nombre vertigineux de cantates, et pour Noël, ce Magnificat solennel pour grand effectif, un chœur à 5 voix, un grand orchestre avec timbales, trompettes, flûte au bois et cordes, ce qui n'empêche pas pour autant des moments de recueillement comme cette aria Esorientes Impevit Bonis, chantée par le contre-ténor Alex Potter.
Thank you.
Esoriente Simple Vit Bonis, un air du Magnificat, première version, Magnificat de Noël, composé en 1723 par Bach. La voix du contre-ténor Alex Potter, le Rias Kammerchor de Berlin, c'est-à-dire le chœur de chambre de la radio de Berlin, et puis l'Académie für Alte Musik de Berlin aussi, dirigée par Justin Doyle, nouvel album paru vendredi chez Harmonia Mundi. Première fois que cet orchestre et ce chœur allemand de tout premier plan grave ce Magnificat de Bach dont nous parlait aussi hier matin Corinne Schneider dans son Bach du dimanche. L'autre œuvre au programme de ce disque, et là Corinne n'en a pas parlé, c'est une musique de Handel. C'est une autre musique solennelle créée à Londres 10 ans plus tôt, en 1713. Un tédéum signé Handel pour célébrer la signature du traité de paix d'Utrecht qui met fin à la guerre de succession d'Espagne, qui va permettre notamment à la reine Anne Stuart de réunir les couronnes d'Angleterre et d'Écosse. Handel vient d'arriver à Londres, il est choisi pour composer cette œuvre, sans qu'on sache très bien d'ailleurs pour quelle raison c'est lui. Un tédéum assez austère, loin du grandiose que goûte volontiers souvent le compositeur, en tout cas au début de cet extrait. When thou tookest upon thee to deliver man, quand tu as pris sur toi de sauver l'homme, un extrait de cet étonnant tédéum de Handel, une œuvre qu'on entend fort peu et dont le Rias Kammerchor et l'Académie für Alte Musik de Berlin, dirigée par Justin Doyle, nous offrent une magnifique version sur ce disque qui vient tout juste de paraître chez Harmonia Mundi. On va quand même citer les solistes qu'on vient d'entendre. Nuria Rayal, Alex Potter à nouveau, Kieran Carell et Roderick Williams.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Hello, darling, well, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, darling, and I can tell. darling. You still crowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas, and Dolly will never go away again. I said hello, Dolly, well, what do you know? Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, and I can tell, Dolly, you're still crowing, you're still growing, you're still going strong. Just feel that room swaying, 'cause the band's playing one of your old familiar songs from way back when. So, golly gee, fellas, find her an empty knee, fellas, and Dolly will never go away again. I mean, hello, Dolly, what do you know, Dolly? It's so nice to have you back where you belong. I can tell, Dolly, you're looking swell, swell, Dolly. Yeah, you're still growing, you're still growing, you're still going strong. Just feel that room swaying while the band keeps on playing one of your old familiar songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas, and Dolly will never go away again. Just feel that room swaying while that band is playing one of your old familiar songs from way back when. So, golly gee, fellas, find her a vacant knee, fellas.
L'une de ces voix d'Amérique qu'on connaît peut-être assez peu en France, Bobby Darin, génial chanteur, également compositeur, acteur. Il était défenseur aussi des droits civiques. Que penserait-il des États-Unis 2024? Lui est mort en 73, à seulement 37 ans de problèmes cardiaques. Bobby Darin dans la chanson phare d'Hello Dolly, la comédie musicale signée Michael Stewart et Jerry Herman, dont Gene Kelly fera un film en 69 avec Barbara Streisand. 60 ans après sa création, Hello Dolly, la comédie musicale est de retour. C'est au Lido de Paris. Ça sera à partir du 7 novembre. On commence un peu à voir fleurir des affiches dans le métro parisien pour cette nouvelle production. France Musique, il est 7h25. Ce n'est pas un pianiste, mais cinq pianistes à l'affiche du concert de 20h ce soir sur France Musique. C'est la soirée annuelle Pianomania de Radio France, sous le signe cette année du Nocturne. Se succéderont au clavier Gabriel Stern, Tanguy de Villancourt, Jean-François Esser et deux dames aussi, Jodeline Galavard et Célia Onetto Ben Saïd. Elle joue ici une pièce de Jeanne Leleu. Thank you. au Théâtre des Marionnettes, extrait du cycle En Italie de Jeanne Leleu avec Célia Onetto Ben Saïd au piano. Elle fait partie des invités de la soirée Pianomania de Radio France. C'est diffusé ce soir à 20h sur France Musique avec Christophe Didis. À tout de suite.
France Musique, les grands entretiens, Judith Chen à 6h30 et 22h.
Toute cette semaine, Marina Viotti se confie au micro des grands entretiens. La mezzo-soprano raconte, avec franc-parler et générosité, son itinéraire atypique qui va la mener du métal symphonique aux Jeux Olympiques, en passant par des études littéraires de très haut niveau et des premiers rôles à l'opéra.
Les grands entretiens, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
Lundi 21 octobre 2024, encore pluvieux sur le sud-ouest aujourd'hui. Des pluies parfois soutenues qui persistent tout au long de la journée de la Bretagne vers la Normandie et les Hauts-de-France. En marge, un ciel bien nuageux des Ardennes à la région parisienne et jusque sur la Vendée. Partout ailleurs, une journée agréablement ensoleillée, une fois les grisailles et les brouillards matinaux résorbés. L'après-midi, les températures sont très douces aujourd'hui. 14 à 17 de la Bretagne à la Normandie, 24 à 26 au sud de la Garonne et 20 à 24 sur le reste du pays. France Musique, 7h30. Alors, d'un nouveau point sur l'actualité avec Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Nouvelle nuit de bombardements israéliens sur le Liban. Hier soir, c'est une société accusée de financer le Hezbollah qui a été touchée dans le sud de Beyrouth. Plus tôt, l'armée israélienne avait visé un centre de commandement du mouvement pro-iranien près de la capitale et mené des frappes aériennes sur des dizaines de localités dans le sud. Elle poursuit en parallèle son offensive contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza où une frappe israélienne aurait tué au moins 73 personnes avant-hier dans le Nord, un bilan contesté par Israël. Le Doliprane sera bien américain, mais sous étroite surveillance de la France. Un accord tripartite a été trouvé hier soir entre l'État, Sanofi et le fonds d'investissement américain CDNR dans le projet de cession de la filiale du groupe pharmaceutique qui commercialise le Doliprane. L'État assure avoir obtenu des garanties, notamment sur l'emploi, et va devenir actionnaire de cette filiale. Et enfin, l'examen de la partie recette du projet de budget 2025 avec ses 60 milliards d'euros d'économies commence ce soir à l'Assemblée. Les mesures phares de ce texte vont se heurter à un mur des oppositions, voire de certains soutiens de Michel Barnier, le Premier ministre. Le gouvernement utilisera-t-il le 49-3 pour faire passer son budget sans vote? Il est toujours confronté à la possibilité d'une censure à la main du RN et n'a pour tout soutien qu'une majorité relative LR Macronie aux fondations fragiles. À suivre, Jean-Baptiste, le fil de l'actu avec au programme plusieurs questions sur la Grèce antique et notamment pourquoi elle a autant inspiré les compositeurs. Toutes les réponses à 7h40.
Et 20 minutes plus tard, vous revenez à 8h. À tout à l'heure, Marie-Hélène. C'est sans doute le concerto le plus célèbre jamais écrit pour la mandoline, concerto en ut majeur, composé par Vivaldi en 1725 avec ici Julien Martineau, et le concerto italiano de Rinaldo Alessandrini. C'est un concerto qui a été beaucoup utilisé au cinéma et notamment par François Truffaut. Le cinéaste y a recours dans deux films sortis à 2 ans d'intervalle, La mariée était en noir et L'enfant sauvage. On célèbre aujourd'hui les 40 ans de la disparition du cinéaste. Et on y revient tout à l'heure à 8h20 dans Maxi Classique avec Max de Zolm qui se penchera sur les liens entre, et la collaboration entre Georges Delerue et François Truffaut. Max qui est déjà là puisque je vois son ombre en régie. Il est 7h40.
Musique Matin. Le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Hélène Piracos.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Vous êtes musicologue, journaliste, on a notamment pu vous entendre sur ces ondes et vous signez un ouvrage qui s'appelle « Faille dans le marbre », sous-titré « Un voyage en musique vers l'Antiquité grecque » aux éditions Première Loge, un livre qui s'intéresse à la façon dont le monde antique grec ou les mondes antiques grecs ont inspiré les compositeurs. Mais d'abord, Hélène Piracos, même si ce n'est pas directement le sujet, c'est quand même lié. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, en 2024, de la musique qui était jouée pendant l'Antiquité en Grèce ?
Alors là, vraiment, je suis pas du tout une spécialiste de la question, mais surtout, c'est vraiment pas le sujet du livre, en fait. Hein. Je me suis pas intéressée à la musique de l'Antiquité grecque, sur laquelle je ne sais à peu près rien. et en plus, je crois qu'on sait plus ou moins des choses, mais limitées. Et en tous les cas, c'est chez tous les compositeurs qui se sont intéressés à l'Antiquité grecque depuis, je pense que presque aucun d'entre eux ne s'est intéressé à ce que pouvait bien être la musique.
C'est pas trop leur sujet ou leur questionnement.
Non, je pense pas. Enfin, quand on entend même Monteverdi qui est plus près de l'antique que Strauss ou Britten, on entend bien qu'il n'est pas question de s'intéresser à la musique de l'antique. Même si, évidemment, pour un Monteverdi, tous les cercles d'érudits auprès desquels il a évolué, eux, s'intéressaient à l'antiquité grecque en général. Mais la musique de l'antiquité, je crois pas qu'ils aient jamais eu connaissance scientifique. Voilà, c'est pas l'enjeu.
Pourquoi les mythes de l'antiquité grecque fascinent et inspirent des compositeurs jusqu'à Philippe Glass ou Pascal Dussapin aujourd'hui?
Je crois que les mythes, Philippe Glass ou Pascal Dussapin, évidemment, c'est des artistes qui en ont une connaissance sans doute plus érudite, mais je crois que n'importe qui parmi nous a au moins une notion vague de ce que c'est que le mythe d'Orphée ou les mythes des Atrides. Et je crois que si ça intéresse tout le monde, c'est parce que c'est une sorte de trésor commun qui nous appartient et qui du coup nous fait rêver comme peut faire rêver n'importe quel élément de l'histoire de l'humanité. C'est quand même des choses fondatrices en fait, comme peut l'être le monde chrétien même si on n'est pas chrétien. C'est des choses qui appartiennent à d'autres civilisations, donc c'est aussi simplement pour ça que ça inspire un artiste.
Mais alors, quelle antiquité grecque? Est-ce que c'est l'antiquité et les mythes? Est-ce que c'est l'histoire grecque? Il y a plusieurs antiquités?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, en fait, j'ai assumé d'emblée dans ce petit livre, hein, qui est court, le fait que l'Antiquité grecque, c'est tout et beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis pas demandé, pour essayer d'écrire le livre, si je m'intéresserais à l'histoire antique, aux mythes ou aux tragédies antiques. Je suis plutôt passé par le prisme des compositeurs que j'ai choisis, en allant voir chez Monteverdi comment il s'intéresse au mythe d'Orphée ou à l'Odyssée d'Homère dans Le Retour d'Ulysse dans sa patrie, en allant voir chez Gluck comment il s'intéresse à Orphée et Eurydice ou à Iphigénie en Tauride, qui sont deux sujets tout à fait différents, ou bien chez un Britten dans la scène des jeux d'Apollon, comment il s'intéresse au personnage entre guillemets d'Apollon. Je suis pas du tout partie des différents éléments de l'Antiquité grecque, je suis partie du rêve de chacun des compositeurs que j'aborde, vous voyez.
On va prendre un exemple, un rêve, donc les mythes, et puis il y a les couleurs, les atmosphères qu'on associe à l'Antiquité, comme ici, Debussy. Thank you. Voilà les premières mesures de la danse profane de Debussy ici avec Marie-Pierre Langlamet, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, enfin les cordes de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, puisque c'est une version avec orchestre. Comment Debussy ici, Hélène Pierracos, évoque-t-il par exemple l'Antiquité et qu'est-ce que ça lui inspire?
Mais en fait, j'ai réalisé après coup que je citais Danse sacrée, danse profane dans mon très court chapitre sur Debussy, mais je suis pas exactement certaine que ça s'intéresse à l'Antiquité. L'impression que j'ai toujours eue, mais c'est une impression de mélomane, hein, c'est pas une certitude de musicologue, très loin de là, c'est qu'en fait, c'est plutôt dans la partie danse sacrée, c'est-à-dire le premier volet du diptyque, qu'il essaye de mettre en œuvre quelque chose qui a à voir avec l'esprit de l'antique, en utilisant ce qu'on appelle les modes antiques grecs. Mais dans la partie danse profane dont on vient d'entendre quelques secondes, c'est plutôt une valse, en fait. C'est une valse, en fait. C'est profane au sens où peut-être c'est plus moderne aussi, vous voyez.
Comment les compositeurs évoquent-ils finalement l'antique? Il y a des esthétiques très différentes selon les époques, évidemment, là. On parle de Debussy, on pourrait parler aussi du prélude à l'après-midi d'un faune, mais si on va vers Richard Strauss, c'est très différent.
Oui, bien sûr. Strauss, en fait, on ne peut pas le dissocier de sa collaboration extraordinaire avec le dramaturge Hofmannsthal, Hugo von Hofmannsthal, qui est vraiment son plus qu'un collaborateur. Il y a vraiment une espèce de duo d'artistes avec ces deux hommes-là qui suscite tout ce qu'on connaît, Electra, Ariane Anaxos et tout ça. C'est vraiment des choses. Votre question est si large que je ne sais pas y répondre de façon plus précise.
C'est des visions de l'antique en tout cas très différentes.
Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est ce que j'essaye de dire dans le prologue de ce livre. En fait, c'est que dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, où tout ce fond antique nous appartient à tous et aussi aux artistes, bien sûr, et aux musiciens, je pense que chacun va chercher dans ce fond qui est immense, enfin qui est vraiment presque aussi vaste que le monde lui-même, ce qui peut l'inspirer en fonction de son esthétique propre. Et je pense qu'un Strauss, par exemple, dans Electra en 1909 ou 1904, je ne sais jamais, je crois que c'est 1909, en s'intéressant à une histoire aussi violente que Electre et le mythe des Atrides en général, il met tout son souci expressionniste du moment et ça donne une œuvre extraordinairement violente. Mais quelques années plus tard avec Ariane Anaxos, étant passé à d'autres choses et puis ayant réfléchi différemment à ce que peut être Ariane Anaxos, qui n'est pas du tout le même type d'histoire qu'Electra, il y insufflera une musique totalement différente. C'est juste une façon de vous répondre en essayant d'être bref, parce que je sais qu'on a un temps très limité.
Mais j'ai encore une question, faille dans le marbre. Oui. Ce livre aux éditions Première Loge, qu'est-ce que ça veut dire ce titre assez intrigant?
Je ne sais pas comment je l'ai trouvé, ça fait déjà quelques années. Tout d'un coup, ça m'a paru correspondre exactement à ce que je souhaitais. C'est-à-dire, le marbre, c'est la culture académique classique, les colonnes, le marbre, quoi, tout ce qui est gravé dans le marbre de l'érudition hellénique. Et les failles, c'est ce que je voudrais essayer de donner à entendre au lecteur, c'est-à-dire la vulnérabilité qu'il y a dans la musique, qui n'est jamais académique chez les grands. Il y a sûrement des compositeurs qui ont écrit des Médées ou des Électres ennuyeuses et académiques, bon, je ne les connais pas ceux-là, mais ceux que j'ai essayé de traiter, c'est ceux qui justement sont dans la faille, dans la vulnérabilité, dans l'invention, très loin des musées et des colonnes de marbre qu'on visite avec des hordes de touristes dans les grands sites archéologiques, vous voyez.
Il est dans la faille, Gluck ?
Ah oui, je crois vraiment.
Quelle faille ?
Ben, on l'entend, si on est amateur, enfin c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation avec Philippe Venturini sur cette même antenne il y a quelques jours. Philippe Venturini, qui est pas très amateur de Gluck, lui il est sensible à ce qu'il y a de peut-être d'académique chez Gluck, mais moi j'y entends au contraire la sensibilité extrême qu'on entend dans ces motifs instrumentaux, l'invention mélodique qui est tellement nostalgique souvent.
Hélène Pierracos, Faille dans le marbre, un voyage en musique vers l'Antiquité grecque aux éditions Première Loge. Merci, mais on va écouter, même si ça ne fait pas plaisir à Philippe Venturini, un extrait d'Iphigénie en tauride de Gluck. Bonne journée.
Merci à vous. Oh!
Un extrait d'Iphigénie en Tauride avec la voix de Mireille Delinche, les musiciens du Louvre, et Marc Minkowski. Il est 7h51, vous écoutez France Musique, c'est l'heure de jouer.
Musique Matin.
Aujourd'hui, on vous propose de gagner le deuxième volume consacré à la musique de chambre de Rita Stroll, paru sur le label La Boîte à Pépites. On en parlait avec notre invité, la violoncelliste Héloïse Luzzatti, qui a lancé ce label de disques qui défriche les musiques de compositrices oubliées. Rita Stroll, donc, deuxième volume, plusieurs exemplaires de ce coffret à gagner. Vous nous écrivez par mail, musiquematin@radiofrance.com avec vos coordonnées. Et votre réponse, quelle est ce matin notre voix mystère, notre première voix mystère de la semaine.
Le chant en français ne m'était pas facile ni évident. J'avais beaucoup plus de facilité et de plaisir du coup à chanter en espagnol ou en portugais ou même en arabe ou en hébreu. J'étais plus dans la musique et moins dans le sens des paroles. Et donc il m'a fallu des années pour apprivoiser la musicalité de la langue française. Je me sens 10 fois plus à nu que quand j'écris un scénario. Le fait d'être face à un public, d'être pas protégé par un personnage, oui, c'est pas le même dévoilement. Je pense qu'on n'est jamais autant à nu qu'avec nos petites chansons.
Nos petites chansons, quelle est cette voix mystère, à la fois actrice, réalisatrice, elle a dit aussi scénariste. Elle chante également et elle met en scène en ce moment un opéra. Votre réponse par mail, musiquematin@radiofrance.com. On vous donnera la réponse en fin d'émission. Et lundi, nous écoutions la voix... vendredi dernier, nous écoutions la voix du jeune Johnny Hallyday.
Thank you.
Sur son île d'Haïti, il fut surnommé le Chopin noir, du nom de son compositeur préféré. C'était une habanera signée Ludovic Lamotte, ici interprétée par celle qui a fait découvrir il y a quelques années cette musique classique haïtienne, Célimène Daudet, elle-même aux origines haïtiennes. La pianiste sera en récital demain soir à Bordeaux, à la station Ozone, à la librairie Mola. C'est à 18h, entrée libre, autour de ce répertoire précisément. 7h56, confidence que l'on susurre. Mais en anglais, confidence, confidence, ça veut dire aussi confiance. C'est le nouvel album du pianiste Laurent Koch en trio avec Yoni Zelnik à la contrebasse, Fred Pasqua à la batterie. Album qui s'ouvre avec ce titre, Around the Corner. Around the Corner, dernier album du trio de Laurent Koch au piano avec Yoni Zelnik à la contrebasse, Fred Pasqua à la batterie. Album qu'ils défendront en concert mercredi et jeudi soir à Paris au Sunside. À tout de suite.
France Musique, le labo musical de Nico, le samedi à 8h50.
C'est les vacances, l'occasion parfaite d'écouter, d'apprendre, de rêver, de rire et de tout savoir sur la science et la musique. Du chant des oiseaux au cerveau des musiciens en passant par le fonctionnement de la voix, déjà 15 épisodes sont disponibles, alors n'attendez plus.
Une série de podcasts de Nicolas Lafitte